France Inter.fr. La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Direction l'Amazonie brésilienne, là-bas se trouve l'immense réserve forestière de Renca où vivent deux tribus indigènes et cette place justement s'ouvre à l'exploitation minière et c'est notre une de la science aujourd'hui.
J'avais parlé des feux, du soleil brûlant, des grands vents qui souffleraient si l'homme continuait à détruire la forêt. Ils n'ont pas respecté ce qui avait été décidé. Ils devraient démarquer les réserves indigènes de tout le Brésil pour qu'on puisse vivre sur nos terres tranquillement. Si on ne s'occupe pas de nos forêts, personne ne va survivre. On va tous disparaître.
Voilà, c'était la voix du chef indien Raoni en 2012 et ses inquiétudes sont à nouveau d'actualité puisque le président de la République brésilienne, Michel Temer, a décidé d'ouvrir une des réserves forestières du pays aux investisseurs privés, un décret qui passe mal pour de nombreux Brésiliens. Axel, on en discute avec notre invité Plignociste.
Bonjour à vous Plignociste.
Bonjour.
Alors vous êtes écologue, directeur de l'unité forêt et société au CIRAD. Vous avez passé 10 ans en Amazonie. Et pour vous accompagner, on retrouve également Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Reporter, partenaire de La Une, tous les lundis. Hervé, cette annonce tombée par décret la semaine dernière a littéralement surpris tout le monde et les Brésiliens en premier.
Oui, surpris et même choqué. C'est-à-dire que le décret du 23 août qui ouvrait la réserve de Cobre, on l'appelle Renca, ce qui veut dire, c'est un acronyme pour dire réserve nationale de cuivre et associés, eh bien, c'est ouvert à l'exploitation minière privée. C'est une superficie plus grande que la Belgique, plus grande que la Suisse aussi, avec 47 000 km² ouverte à l'exploitation minière. Et qui se trouve à cheval entre les états de Pará et d'Amara, au nord-est du Brésil, non loin de la Guyane, et où vivent effectivement les peuples indigènes Aparai, Vaiana et Vajapi, si je prononce bien. Alors l'intention du président Temer, c'est la revitalisation de l'industrie minière dans un contexte de ralentissement économique au Brésil, mais aussi le président Temer est accusé de corruption, et notamment, entre autres délits ou suspicions, en tout cas de complaisance à l'égard de la compagnie minière Samarco, qui avait été impliquée dans la catastrophe environnementale de novembre 2015 où une rupture d'un barrage d'eau minière avait été une catastrophe environnementale, c'était à Rio Doce. Et tout ça dans un contexte où la déforestation de l'Amazonie est repartie à la hausse depuis plusieurs années.
Alors Plignociste, quelles sont d'abord les ressources qui sont convoitées dans cette région de Renca exactement ?
Écoutez, c'est une zone, comme vous l'avez dit, très très grande. Donc il y a du cuivre, de l'or et d'autres minéraux. Cette zone avait été délimitée par le gouvernement militaire dans les années 80 pour éviter justement une accaparation d'entreprises minières privées à une époque où il y avait un petit peu cette angoisse que l'Amazonie soit colonisée par les États-Unis.
En termes d'impact, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour une zone comme celle-là ? On imagine assez facilement qu'avant de creuser le sol, il faut enlever les arbres, non ?
Tout à fait, oui, donc déforestation, mais également utilisation de métaux lourds, érosion des sols, érosion des cours d'eau, donc cela peut avoir des impacts directs environnementaux, mais également indirects. On sait que les activités minières vont faire ouvrir des routes, donc amener des populations qui vont s'y installer, soit pour travailler pour la compagnie minière, soit pour développer des activités agricoles. Je voudrais simplement rectifier quelque chose, c'est pas les 4 millions d'hectares qui sont complètement ouverts. Dans ces 4 millions d'hectares, il y a 2 terres indigènes, 7 unités de conservation. La zone qui serait directement concernée couvre quand même 500 000 hectares. Mais c'est quand même un signal assez fort du gouvernement de ce laxisme environnemental qui sévit depuis quelques mois maintenant et depuis quelques années.
Je vous repose la question parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris. Les indigènes n'ont rien à craindre pour leurs terres ?
Pour le moment, non. Les terres indigènes ont un statut relativement bien défini, donc rien n'est immuable, mais ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir une exploitation minière dans les terres indigènes pour le moment. Par contre, il y a entre 500 et 1,5 million d'hectares dans cette zone qui n'a pas de statut particulier et qui donc pourrait faire l'objet de cette exploitation assez rapidement. Oui.
Plignociste, le Brésil était depuis quelque temps un bon élève en termes de protection justement de sa forêt. Comment vous expliquez là ce revirement ?
Écoutez, d'abord une crise politique très forte et ensuite une crise économique également très très importante depuis plusieurs années. Le fait que le gouvernement aujourd'hui n'a pas vraiment de légitimité populaire, puisque Dilma a été destituée, mais il n'y a pas eu d'élection derrière. Donc le président Temer, je crois, a dans l'opinion a environ 1% d'opinion favorable. Donc
ah oui, c'est pas beaucoup,
dire
ouais.
que ce gouvernement soit très très populaire. D'autre part, au Brésil, il n'y a pas, comme en France, un parti majoritaire. Donc il faut trouver des coalitions. Et il semblerait que le président Temer essaye de gouverner avec les gens qui défendent l'agro-business. Et c'est un peu une façon de se maintenir au pouvoir pour pouvoir gouverner.
RDKM.
Il y a l'agro-business, mais il y a aussi des compagnies minières extrêmement importantes au Brésil, notamment Vale, qui est un géant mondial. Est-ce que Vale veut aller rapidement dans la réserve de Renca pour l'exploiter?
Écoutez, je pourrais pas, j'ai pas trop d'informations. Ce que je sais, c'est que dans les années 80, il y avait eu plusieurs compagnies qui avaient demandé des permis, et apparemment, ça serait d'abord ces compagnies-là qui seraient servies en premier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit des signes alarmants de décision qui va à l'encontre de la politique environnementale qui avait été saluée et reconnue, comme vous l'avez dit, comme un peu une success story. Le Brésil, depuis 2004, a réduit son taux de déforestation de 80%. Il a prouvé que cette réduction était due à une politique environnementale volontariste. Et un des facteurs qui a fait réduire et qui a fait reculer la déforestation, c'est bien la création d'unités de conservation. Aujourd'hui, 42% de la Amazonie brésilienne est sous unité de conservation. Et on sait que ces unités de conservation ont été quand même un frein marquant contre la déforestation.
Comment réagissent les Brésiliens, vos collègues scientifiques brésiliens à cette annonce ?
Il commence à y avoir une mobilisation assez forte, non seulement du milieu scientifique, mais également du milieu des acteurs. On se rappelle au début d'année qu'un tel décret avait failli passer et que le président Temer avait mis son veto parce que la top modèle Gisèle, dont le nom de famille m'échappe, avait justement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Greenpeace entame une campagne qui a l'air d'être relativement bien suivie. Cela montre en fait que si aujourd'hui la politique environnementale a l'air de rétrocéder comme dans les années 80-90, la population, enfin la société civile brésilienne a un état d'esprit complètement différent. Dans les années 80-90, effectivement, le leitmotiv c'était de développer l'Amazonie qui représentait plus de 60% du territoire brésilien. Pour avoir une politique de développement économique. Aujourd'hui, les Brésiliens qui ont eu l'habitude de voir leur pays être mis en avant comme un des exemples à suivre sont de plus en plus conscients de l'importance de l'Amazonie pour leur survie et aussi pour leur agriculture.
L'année 2018 sera une année d'élection présidentielle. Vous avez donc espoir que les citoyens choisissent un président qui protège à nouveau la forêt ?
Oui, ça c'est tout à fait mon souhait. Maintenant, la situation politique est assez difficile avec des affaires de corruption qui ne cessent de se multiplier. On ne sait pas si Lula pourra se présenter. En tout cas, je pense qu'on fera tout pour pas qu'il se présente. Parce que jusqu'à maintenant, les sondages le donnent gagnant assez largement. Je pense qu'effectivement, l'année 2018 sera une année assez charnière.
La situation de la déforestation dans le reste du Brésil, est-ce que ça s'améliore ou pas?
Alors, si on parle du reste du Brésil, on se focalise beaucoup effectivement sur l'Amazonie. Mais il y a également le centre du Brésil, le Cerrado, qui lui subit encore un taux de déforestation qui est le double de celui de l'Amazonie, parce que c'est un milieu relativement sec, donc facile à déchiffrer par le feu, et parce que aussi les lois environnementales sont un peu moins contraignantes qu'en Amazonie. En Amazonie, le code forestier exige que vous protégiez 50 à 80% de votre parcelle en forêt. Dans le Cerrado, c'est simplement 20%.
Merci en tout cas Plinio Sist, un article qui sera dans reporter.net très vite, j'imagine, avec Kempf.
Demain,
voilà, pour ceux qui souhaitent aller en savoir plus et lire donc ce qui se passe là-bas dans la forêt amazonienne. Merci beaucoup Hervé et Axel, à demain.
À demain.